RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denis Epoté, TV5 Monde, Vincent Hugeux, L'Express et Laurent Depas, Kouassi.com. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. Le Gabon, où le projet de réforme constitutionnelle a été adopté massivement par les députés et sénateurs. Ce projet est qualifié de monarchique par l'opposition. Et puis en Angola, les 100 premiers jours du mandat du président João Lourenço, marqués sur surtout par la mise sur la touche de la famille de son prédécesseur, Eduardo dos Santos. D'abord, l'opposition gabonaise qui accuse le président Ali Bongo de s'octroyer en quelque sorte une voix royale avec sa réforme constitutionnelle. Un texte que vient donc d'entériner les parlementaires réunis en congrès ces jours-ci. Après le feu vert du Conseil constitutionnel, cette révision donc sera promulguée par Ali Bongo en personne. Alors, cette réforme, la septième depuis le retour du pluralisme politique en 91 au Gabon, s'inspire, nous dit-on, des conclusions du dialogue national convoqué par le président Ali Bongo pour réconcilier le pays après cette crise post-électorale de la présidentielle d'août 2016. Alors pour l'opposition notamment, ainsi que les partisans, surtout de son rival Jinping, Ali Bongo cherche en fait à instituer une monarchie, une analyse partagée par certains observateurs qui ironisent sur un président atteint, Denise, du syndrome Mohamed VI, son grand ami et roi du Maroc.
C'est vrai, parce que cette révision constitutionnelle avait été présentée comme l'occasion devant permettre à la démocratie gabonaise de connaître un saut qualitatif après la crise électorale, vous l'avez rappelé. Elle a été précédée par un dialogue qui n'a pas été un dialogue, qui a été un monologue, puisque les grands leaders politiques de l'opposition n'y ont pas participé, Jinping, Nzoubadama, Miboto et Alexandre Barrochambrier. Au final, on passe d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel fort, une monarchie, comme dit l'opposition, où tous les pouvoirs sont concentrés par le président, où les ministres ont même allégeance au président aujourd'hui. Il n'y a plus d'équilibre entre le gouvernement et le président, puisque la politique de la nation était définie avec concertation du gouvernement, ce qui n'est plus le cas. C'est donc un échec. Le seul point positif de cette réforme constitutionnelle, c'est le scrutin à deux tours.
À deux tours, qui a été restauré.
Comment appliquer un scrutin à deux tours quand on sait que toutes les institutions en charge du contrôle et de la préparation des élections sont contrôlées par le pouvoir?
On a le sentiment exécutif.
Que Ali Bongo cherche à concentrer, à préserver son pouvoir parce qu'il évite une cohabitation qui pourrait découler
des prochaines législatives.
Mais se tiendront-elles?
Voilà.
Elles ont été reportées deux fois.
Alors, Vincent Hugeux, vous avez titré sur votre blog de l'Express, l'Afrique en face, donc vous avez titré à propos de cette réforme constitutionnelle gabonaise, Sa Majesté Ali Ier du Gabon. Voilà qui est clair.
Oui, évidemment, il y a une dimension légèrement ironique dans ce titre, mais le descriptif auquel vient de procéder Denise met en évidence, à minima, l'hyperprésidentialisation du régime gabonais. Ce qui est amusant, c'est que Ali Bongo voudrait incarner une forme de modernité politique. Vous vous souvenez de son slogan de 2009, Ali neuf, c'est Ali pas si neuf que ça. Parce qu'en réalité, il est en train de ressusciter une vieille chimère qu'il a partagé un temps avec son père. On va rembobiner le film d'une trentaine d'années, on est en novembre 86. Omar Bongo Ondimba vient de triompher, score soviétique plus de 99% lors d'une présidentielle, et il lui prend l'idée de transformer le Gabon postcolonial en monarchie. Et d'ailleurs, il abandonne l'idée, mais dans une interview fleuve à l'époque dans Jeune Afrique, il dit le profond respect qu'il éprouve pour le système monarchique. Il dit qu'il pourrait y prétendre, et d'ailleurs, il avait envisagé de se faire couronner roi des Tékés pour ses 50 ans à Franceville, à l'occasion de l'inauguration du Trans-Gabonais. Et pour tester l'idée, et
peut-être les Tékés, c'est la communauté d'Ali Bongo, d'Omar Bongo aussi.
Absolument. Et alors, pour tester l'idée, ou peut-être pour la tuer dans l'œuf, il envoie son fils, Ali, l'ex-Alain, à Paris, où celui-ci rencontre Jacques Chirac, alors Premier ministre de François Mitterrand. Chirac est absolument incrédule et il essaye pédagogiquement de lui dire qu'après le précédent calamiteux de Bokassa en République centrafricaine, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il soit.
Denise, hein, sur 213 parlementaires, 14 seulement ont voté donc contre ce projet de réforme constitutionnelle, mais le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain Billy Bizet, s'est voulu rassurant. Il nous dit que les parlementaires gabonais de la majorité ne sont pas des godillets, faut-il le croire ?
Aujourd'hui, à l'Assemblée.
Est-ce qu'il a encore une légitimité, cette Assemblée ?
Elle n'a plus de légitimité, puisque le mandat est révolu des députés. Mais il n'y a que des partisans du PDG qui sont à l'Assemblée. Toute l'opposition est à l'extérieur. Donc, ce qu'on espère, c'est que les législatives, si elles se tiennent au mois d'avril, que l'opposition puisse faire son entrée au Parlement.
C'est ça la grande hypothèse aujourd'hui.
C'est la grande hypothèse, mais les législatives ont été reportées deux fois déjà. Voilà. Et clairement, l'annonce est au plus tard en avril 2018. Donc c'est le flou total qui est entretenu.
Ali Bongo ne rêve plus d'une chose, c'est que Jean Ping et les siens disent « oui, on participe ». Pour un peu se donner une crédibilité.
Jean Ping ne participera pas.
Exactement.
Il ne participera pas, bien sûr, il y aura un boycott.
C'est le rêve suprême. C'est le rêve suprême.
Alors, on a l'impression, Vincent, que finalement, le pouvoir, notamment son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, eh bien, ce pouvoir a réponse à tout. C'est-à-dire, on justifie, c'est le peuple qui l'a voulu, ce projet de réforme constitutionnelle, ce sont les conclusions du dialogue national, qui n'était pas inclusif, mais c'est pas grave, puisque le dialogue s'est quand même tenu. Tout ça pour dire que, finalement, ça va passer comme une lettre à la poste, cette réforme.
C'est un exercice du pouvoir en circuit fermé. Regardez le raccourci saisissant. Vous allez avoir donc, dernière étape, pure formalité, tout ça va être avalisé par le Conseil constitutionnel que préside la fameuse Marie-Madeleine Bourançon, qui a été évidemment décisive dans la validation de la mascarade que fut le scrutin de l'été dernier et qui en même temps, ne l'oublions pas, est aux prises avec les rigueurs d'une autre justice que la justice gabonaise. Elle a quand même été entendue pendant deux jours en décembre dernier par l'Office central de répression de la grande délinquance financière à Paris du fait de la constitution d'un patrimoine immobilier et bancaire absolument colossal et qui n'a absolument rien à voir avec ces émoluments, si confortables soient-ils. Donc voilà, c'est un système en circuit fermé. On s'adoube, on s'avalise, et pendant ce temps-là, le Gabon continue de plonger avec une crise sociale. Ne l'oublions pas, on n'y a pas fait mention jusqu'à maintenant. Vous avez une magistrature en grève, vous avez des universités en ébullition, vous avez des revenus qui s'effondrent, vous avez une gestion de l'après-pétrole qui nourrit d'immenses colloques, mais très peu de réalité. Donc voilà, il y a une sorte de dissonance terrible entre ce cinéma politique, avec un casting que l'on connaît par cœur, et des réalités sociales, économiques et politiques qui s'éloignent de plus en plus de ce cirque-là.
Sachant que là, au niveau du Gabon, déjà, ils ont bien géré le truc, c'est que les armes sont chez les gens du Haut-Ogooué. Donc déjà, dans l'armée, ça bouge pas. Les Gabonais veulent autre chose. Il y a comme un plafond de verre. Et tout est fait pour un peu donner l'apparence, vous parlez de colloques, ainsi de suite, que tout va bien, mais... Il faut dire aussi qu'en coulisses, il s'active aussi à financer pas mal par exemple, le Gabon vert, tout ce qui est écologique, on a besoin d'argent. Allez, le Gabon est là, il donne un peu d'argent.
C'est du marketing.
Pour s'acheter, en fait, une visibilité au niveau de l'extérieur. Parce que le Gabon, si vous voulez, on sait comment c'est localement. Pas besoin, localement, on sait comment ça marche. Le Gabon est très préoccupé par son image qu'il renvoie à l'extérieur. Et là, on l'a vu avec la dernière présidentielle, c'est catastrophique. C'est-à-dire que quasiment personne n'a reconnu la victoire d'Ali Bongo. Donc ça leur fait mal, en fait. Donc ils se disent, mais merde, comment on va faire ? Ça va être là maintenant à observer, c'est de voir comment ils vont réussir à revenir dans le jeu.
Voilà, un dernier mot sur le Gabon, Vincent.
Très rapidement, puisque Denise évoquait le cas d'école gabonais et l'Afrique centrale, l'enjeu c'est évidemment la fragmentation et l'usure de l'opposition. Il faut admettre qu'à ce stade, hélas, la stratégie qui était celle de la fissure et de la division a plutôt fonctionné. Et c'est à l'opposition gabonaise, je dirais aux oppositions gabonaises, de se montrer à la hauteur de ce défi,
de se resserrer,
en mettant un peu à la rivière
les querelles
d'ego, les calculs,
les pognons, et garder l'unité.
On se croira en Guinée équatoriale, ils viennent tous à Paris maintenant. Pour finir, Ali Bongo quand même joue un rôle stratégique pour la sécurité aussi en Afrique centrale.
Disons que c'est une rente de situation qui fait un usage.
Rente de situation aussi peut-être sur le plan économique. RFI TV 5 Monde, la suite d'Afrique Presse nous amène Denise en Angola à propos des 100 premiers jours du mandat présidentiel de João Lourenço. Alors pour faire court, le président Lourenço qui avait promis de lutter contre la corruption aura surtout mis sur la touche des membres de la famille de Santos qui étaient aux affaires, Madame Isabel de Santos qui était à la tête de la Sonangola. pétrole et puis à la tête surtout d'une fortune colossale. Le fils de Santos, qui s'appelle José Filomeno dos Santos, qui lui a été débarqué récemment de la direction du Fonds d'investissement souverain de l'Angola, un fonds qui aura surtout enrichi, hein, d'après plusieurs enquêtes, notamment en Suisse, dans des conditions très douteuses, l'un des proches de ce fiston, donc basé en Suisse.
Pour ajouter à la liste, le gendre de dos Santos. Le syndicat d'Okolo également a perdu le soutien d'une des sociétés
le
des
grand
diamants
collectionneur,
qui était actionnaire dans sa société de diamants avec un partenaire suisse.
Et on sait très bien que l'Angola produit du diamant.
Du diamant, de très bonne qualité, dit-on. Bah, pour quelqu'un qui était qualifié de peu charismatique, je trouve que M. Lorenzo a un parcours sans faute en 100 jours. Hein. Il est salué par le MPLA, qui est quand même le parti au pouvoir qui a adoubé sa nomination, mais également par l'opposition, puisque l'UNITA aussi salue les mesures qu'il a prises pour faire voler en éclats l'empire politico-financier de la famille dos Santos. Il a la bénédiction du parti, des caciques du parti, notamment de la branche armée du MPLA, ce qui n'est pas rien, même si aujourd'hui il lui reste à confirmer le contrôle qu'il pourrait avoir sur le parti. On sait aujourd'hui qu'il est majoritairement soutenu par tous les Angolais qui en avaient marre un peu de cette arrogance des dos Santos.
Alors Vincent, Denise vient de dire que l'UNITA soutient effectivement cette espèce de nettoyage, hein, des écuries, si, comme on dit. Pour autant, l'UNITA réclame quand même des enquêtes, des poursuites judiciaires pour savoir à quoi a servi ces milliards, somme toute, détournés ou utilisés peut-être de manière pas très orthodoxe tout au long du règne de M. dos Santos.
Vous soulevez un point crucial. J'avoue avoir été agréablement surpris par la performance politique des 100 premiers jours de Lorenzo. J'étais sceptique, ne serait-ce que par son pédigré, par son statut de baron, hein, ministre de la Défense, de dauphin, même si José Filomeno, le fils écarté du fonds d'investissement, a un temps caressé cette chimère d'être installé dans le fauteuil paternel. Mais il y a une hypothèque. Est-ce que l'on va se tenir à cette purge, qui est virile, et dont je ne nie pas l'ampleur ni la profondeur, ou est-ce qu'on va aller jusqu'à l'échelon judiciaire? On pourrait imaginer, et là c'est une construction purement gratuite de ma part, que d'une certaine manière il y a un marché entre le nouveau et le clan ancien. C'est-à-dire on va très vite, très fort dans le nettoyage de printemps, d'hiver, d'automne, tout ce que vous voudrez, mais en revanche on s'arrête au pied du box, bien évidemment, les accusés. Voilà. Et je pense qu'il y aura sans doute attisé par cette opération grand vent d'ouverture, il y aura une frustration dans une partie de la société, notamment la société civile angolaise, si on s'arrête à la porte des tribunaux.
Faut-il craindre justement, Laurent, d'après vous, un gentleman agreement qui ferait que Isabel dos Santos restera la première milliardaire ou milliardairesse du continent africain et que son fiston et son sbire suisse continueront à jouir de centaines de millions d'euros ou de francs suisses, hein, puisés, somme toute, dans les caisses publiques de l'Angola?
Selon moi, il y a eu un accord. Il y a des mesures pour faire, on n'est pas népotique, donc on fait le ménage, comme ça l'opinion dit c'est bien, ça très bien, mais je pense que derrière il y a des accords, ça j'en suis quasiment persuadé, mais ce que moi j'observe dans ça, c'est qu'il y a chaque président, on l'observe partout, chaque président qui arrive met son système aussi en place. Les dos Santos contrôlaient des secteurs vraiment très sensibles et premiers dans l'économie
très juteux.
Angolaise, donc petit à petit on met son système en place, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il a attendu surtout, faut rappeler, sur la province de la Cabinda et sur le sud-ouest, parce que c'est là politiquement où véritablement, même si ces réformes au niveau des forces armées angolaises sont plus ou moins bien acceptées, c'est quand même militaire, il s'y connaît, il maîtrise bien ce domaine-là, mais c'est surtout cette crise avec le FLEC, donc à Cabinda et au sud-ouest, qui vont vraiment des enjeux politiques avec la mutation aussi de l'économie angolaise qui était bien évidemment axée sur le pétrole. Et là, lui, c'est là politiquement, on va savoir si véritablement, sinon 100 jours, on peut pas vraiment juger véritablement.
Oui. Alors, le système de corruption qui est dénoncé en Angola ne concerne pas que la famille dos Santos. On serait bien naïf de penser que les autres barons du régime n'ont pas profité finalement de cette manne, de cette confiscation, tout simplement parce qu'ils sont en position de confisquer l'argent qui revient au peuple, Denise.
Oui, non, pas que la famille dos Santos, mais dans le classement, la famille dos Santos occupe le premier rang.
C'est ça.
Donc c'est sûr que je pense que ce qui sera décisif, c'est les décisions que prendra le MPLA. Le parti est en accord avec l'UNITA, parce qu'aujourd'hui, les liens entre le MPLA et l'UNITA se sont améliorés. Mmh. Lorenzo a quand même reçu deux fois en 100 jours le représentant de l'UNITA. Mmh. Alors qu'il y a près de 15 ans que Dos Santos ne lui adressait plus la parole. Mmh. Donc je pense qu'il faudra le scruter de très près, ce rapprochement entre l'UNITA et le MPLA.
Il y a un facteur qui, à mon sens, renforce un peu le crédit de Lourenço, qu'on surnomme là-bas le exonérador implacable.
Liquidateur implacable.
Liquidateur implacable. Bon, ce qui est un peu fleuri comme terminologie.
Ouais, mais ça
ce qui est intéressant, c'est que on a bien vu que sur la fin de son ultime mandat, Dos Santos avait essayé de verrouiller l'appareil sécuritaire. Police, renseignement, etc. Et la grande surprise, je dirais la bonne surprise, c'est que là-dessus, Lourenço est passé en force. Et qu'en fait, il n'a pas permis ces sortes de verrouillages dans la coulisse qui auraient permis de prolonger, notamment les situations rentières qu'on évoquait à l'instant, parce que on a parlé évidemment de Isabelle, la princesse, de José Filomeno, mais n'oublions pas de Chizé, l'autre fille beaucoup moins connue, qui détenait notamment une société de production cinématographique et
la
télévisuelle, qui avait une sorte
et
de marché
captive,
mais qui était aussi l'une des actionnaires principales de la deuxième grande société de téléphonie mobile. Je signale au passage que Lourenço a décidé d'ouvrir le marché à une troisième, puisque c'est la Princesa, donc c'est Isabelle qui détenait, elle, Unitel pour partie. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est quand même des signaux qui, s'ils durent dans le temps, sont assez encourageants.
Il n'a pas le... Alors autant dire, Laurent, que finalement, Dos Santos, aujourd'hui, n'a pas les moyens de contre-attaquer, de lancer une contre-offensive.
Dos Santos, il a fait son temps, il est blindé, il est tranquille, il a fait 38 ans, donc il laisse la main. C'est maintenant...
Mais il a quand même jugé que ces mesures étaient radicales.
Radicales.
Oui, mais c'est normal. Là encore, il y a beaucoup de communication, mais ils sont quand même à l'aise, ils ont fait leur temps. Maintenant, un nouveau système va se mettre en place. Comme on dit, il y a des vrais sujets de réunification du pays. C'est très important localement. Moi, avec les Angolais qui je parle, c'est vraiment important de se sentir bien en Angola. Là, les enjeux
de ce mandat. Alors, Denise, on a dit qu'une grosse partie de l'argent, en tout cas, que gérait Isabel Dos Santos a été investi au Portugal. Et on sait très bien qu'elle dispose dans ce pays de réseaux à travers les dirigeants politiques de tous bords, même de réseaux, dit-on, dans l'appareil judiciaire portugais. À supposer que Lourenço engage une procédure pour récupérer une partie de ses biens, on a l'impression qu'il aura beaucoup, beaucoup de difficultés.
Attendons de voir, hein, parce que quand on observe aussi avec Lourenço, c'est le retour de l'Angola sur la scène diplomatique africaine et occidentale. Mmh. Il a été reçu par Emmanuel Macron, il s'est rendu au sommet Union africaine-UE à Abidjan au mois de novembre, il ira à Addis Abeba au sommet de l'Union africaine, et puis il était récemment aux côtés du président sud-africain pour tenter de régler la crise du Zimbabwe. Donc le retour de l'Angola sur la scène africaine et internationale pourrait favoriser, Vincent,
très rapidement, il y a un autre front. Vous évoquiez tout à l'heure les 5 milliards de dollars du fonds d'investissement souverain que dirigeait José Filomeno, au profit notamment de son ami Elveto Angolais. Il y a quand même une bonne partie, les deux tiers d'après les experts, qui aujourd'hui sommeillent sur des comptes bancaires de l'île Maurice.
Voilà.
Donc il va falloir aussi aller les rechercher.
Ce complice du fiston aurait engrangé à lui tout seul plus de 200 millions de dollars à partir de ce fonds d'investissement public. Et c'est inouï, non, Laurent?
Non, ça vous choque en quoi? C'est des
premières puissances pétrolières du continent, quand même.
C'est quand même un maximum de pauvres dans ce pays. Oui, la majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Non, mais comment...
Oui. Bien sûr que ça choque.
Oui, c'est choquant,
C'est la réalité du continent africain, hélas. De certains pays, effectivement, qui ont eu 38 ans de « on fait ce qu'on veut ». Et c'est aujourd'hui qu'on va véritablement voir si l'Angola est prêt à... Enfin, si la classe politique angolaise est prête à passer à un nouveau cap. C'est la grande question, c'est la grande interrogation, et c'est là-dessus qu'il sera jugé.
En vérité, le président Lourenço a quand même pas mal de boulot à la tête de ce pays, à la fois démocratiser les institutions, rendre plus transparent la gestion des fonds publics, enfin bref, reprendre à zéro.
Ce que nous enseigne l'histoire, dont on ne retient jamais les leçons, c'est qu'on ne sort pas impunément d'un système politique vitrifié pendant X décennies. On a parlé du Gabon tout à l'heure, on pourrait parler de beaucoup d'autres pays, de tous les pays d'Afrique centrale. Et d'ailleurs, sans établir de parallèle hasardeux, je suis curieux de savoir s'il y aura des leçons angolaises au Zimbabwe. Parce qu'au fond, on a là aussi un schéma où un baron, un cacique du régime, hérite d'un pouvoir à bout de souffle et a l'impérieux devoir de rejoindre une forme de modalité à la fois politique et économique.
Les enjeux ne sont pas les mêmes.
Si les enjeux sont pas les mêmes.
Mais il faut dire quand même que l'Angola cherche une acceptabilité. Donc elle se montre maintenant, parce que Dos Santos a toujours été puissant diplomatiquement sur le continent.
Voilà, c'est la fin de...
Militairement,
en plus.
Et militairement. C'est la fin de cette émission. Merci, Denise Epoté, Vincent Hugeux, Laurent Despas, ainsi aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.